voyez ici la tombe d'André Chavannes. Alors, un tout petit commentaire. Hein? Ouais, je sais, mais je le répéterai deux fois. Parce que ça va pas. Parce que c'est très rapide, simplement. Vous voyez, c'est marqué. C'est marqué qu'il était conseiller d'État, mais c'est effacé. C'est horizontal, on voit conseiller d'État. Et puis surtout, sur la plaque, c'est marqué humaniste. Donc c'est pas socialiste. Avec André Chavannes, pour ceux qui le connaissent, on aurait pu ajouter pacifiste, voire antimilitariste. Enfin, on aurait pu dire beaucoup de choses. Et voilà, et on a mis humaniste. Et je trouve que c'est une forme d'euphémisation. Voilà, tout le monde est arrivé du coup. Je voulais juste dire ça. Et on va passer à la tombe de Léon Nicole qui est juste là, derrière. Voilà. Donc, exception qui confirme la règle. Comme vous pouvez le voir d'emblée, c'est un monument qui veut exprimer quelque chose d'extrêmement fort et qui l'exprime, notamment avec l'inscription aux défenseurs des libertés populaires, les travailleurs reconnaissants. Il n'y a que deux tombes où il est question de travailleurs et d'hommages rendus à quelqu'un qui s'est battu pour la défense des travailleurs et des travailleuses. L'autre tombe du même titre, c'est celle d'Émile Nicolet qui se trouve à l'entrée du musée de Saint-Georges. Émile Nicolet, l'un des acteurs de la grève générale, conseiller au... qui était conseiller aux États au moment où il est décédé prématurément d'une tuberculose au début des années 20, et auquel le mouvement ouvrier avait rendu un très très grand hommage avec des milliers de personnes qui étaient présentes à l'enterrement. Alors en ce qui concerne la présence de Léon Nicole, on touche ici un petit peu à une situation. Bon, d'abord, c'est une exception qui confirme la règle, notamment par rapport à l'euphémisation. C'est un symbole du contre-pouvoir qui a exercé le pouvoir et qui, parce qu'il a exercé le pouvoir, se trouve dans le cimetière du pouvoir. Mais c'est quand même Léon Nicole. Donc c'est un peu compliqué et ça demande des explications. Donc en deux mots, on en reparlera devant la pierre du 9 novembre, qui est notre avant-dernière étape. Mais Léon Nicole, c'est l'une des deux personnalités du mouvement ouvrier qui était la proie d'un meeting fasciste de l'Union nationale le 9 novembre 1932, dans un meeting qui était censé faire le procès de ces deux personnalités, dont l'une était Léon Nicole, l'autre était Jacques Dicker, qui était un avocat, député, qui était à la fois juif, d'origine juive et d'origine ukrainienne, ce qui lui valait des salves permanente et continue d'antisémitisme de la part de l'extrême droite de l'époque. Suite à la manifestation du 9 novembre, dont on reparlera plus tard, Léon Nicole a été arrêté, mais il se trouve que sorti de prison, il a été élu conseiller d'État. Donc vous voyez un peu le passage, hein, le pouvoir contre pouvoir. Enfin, en quelques mois, il y a beaucoup de choses qui se sont jouées dans sa propre vie. Et ensuite été à la tête d'un mouvement socialiste qui s'est détaché du socialisme suisse. Enfin, pour finir, il y a eu une scission. Il a fini sa vie en dehors de toute véritable activité politique et dans une certaine déchéance. Mais c'est une figure, c'est aussi une figure qui a été controversée parce qu'il a fait partie de ces personnalités qui sont allées en Union soviétique faire un voyage dont ils ont ensuite rendu compte au plus mauvais moment en plus, parce que c'était en 37-38. Donc il a fait l'objet de des interdictions du Parti communiste et de toutes les campagnes anticommunistes liées à l'époque du pacte germano-soviétique, mais on ne peut pas dire qu'il a été d'une grande lucidité par rapport à la répression stalinienne à l'époque. Donc une personnalité complexe, mais au-delà de sa complexité, une personnalité absolument symbolique de l'histoire du mouvement populaire, ouvrier et socialiste genevois, ce qui explique largement l'existence de ce monument, son faste. Voilà. Alors, c'est un monument qui a été fait plus tard. Il n'a pu exister que parce qu'il y a eu un parti du travail qui a fini par reconnaître la figure de Nicole au-delà de toutes les histoires, de tous les problèmes, de tous les conflits qui ont pu se passer, parce que, à l'évidence, c'est un symbole de l'histoire sociale de ce canton. Voilà, alors, j'insiste vraiment parce que, aux défenseurs des libertés populaires, les travailleurs reconnaissants, d'autres auraient mérité une phrase de ce type-là, mais au moins il y en a un qui l'a eu. Quoi. Voilà. Alors, je vais vous emmener maintenant. Suivez-moi. Il y a encore deux étapes. On va faire chacun, Georges Tissot et moi, un petit aparté sur des personnalités qui ne sont pas du mouvement ouvrier, mais qui ont sans doute quelque chose à voir et avec la contre-culture et avec la question des victimes et des subalternes. Et puis ensuite, on évoquera l'origine de la démocratie de Genève et l'état lamentable dans lequel elle est représentée dans ce cimetière.
Excusez-moi,
j'ai une petite question. Oui,
il y a une symbolique par rapport à la tête comme elle est posée, ou c'est un hasard?
C'est pas un hasard, il y a un esthétisme qui est,
parce qu'en général, on
qui est un peu pompeux.
Droit.
Quoi.
En général, on les met droit, non?
Oui, vous avez raison.
Mais je crois qu'il me semble qu'il y a une photo comme ça, on le voit comme ça, où il est déjà sur la fin de sa vie, visiblement.
Il est tordu.
Et puis, il n'y a pas de bras, mais...
D'accord.
Mais j'ai pas, à mon avis, il y a eu une commande artistique. Mm-hmm. Et puis comment l'artiste a réalisé sa commande. Ce qui est peut-être plus important, je trouve que le visuel, ça fait 13 années 30 et c'est un peu pompeux, quoi.
Mm-hmm.
Le type de caractère, etc. Enfin, voilà. Bon, je ne suis pas historien de l'art, mais je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce monument qui me rappelle des choses pas forcément très sympathiques. Donc, Gerhard Rigner était très jeune pendant la Deuxième Guerre mondiale et exerçait à Genève la fonction de secrétaire, secrétaire général, ce qu'il a été après, mais de secrétaire du Congrès juif mondial, du bureau genevois du Congrès juif mondial. C'est l'auteur d'un télégramme extrêmement important qu'on utilise beaucoup dans l'enseignement de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est un télégramme qui a averti les autorités suisses, les autorités anglaises et américaines d'un certain nombre de nouvelles qui provenaient de l'Europe de l'Est à propos de la mise en action de la dite solution finale, c'est-à-dire du processus industriel d'extermination des Juifs d'Europe dans les camps de l'Est. C'était un grand témoin qui pouvait faire valoir le fait que, contrairement à ce qui est souvent dit, les autorités, à partir de 1942, savaient. Elles ont su très vite, elles n'ont pas su tout de suite. Les décisions relatives à l'extermination des Juifs d'Europe, c'est la conférence de Wannsee de janvier 1942. Le télégramme de M. Rigner, c'est juillet 1942. M. Rigner, je l'ai connu personnellement, parce que vous voyez, il est décédé en 2001. Il n'a juste pas eu le temps de lire le rapport final de la commission Berger. Mais nous avons travaillé avec lui et avec d'autres pour faire connaître ses travaux et pour développer une vision critique de l'histoire de la Suisse, et en particulier du problème posé par l'attitude des autorités et des élites économiques suisses vis-à-vis des fascismes qui entouraient la Suisse et du national-socialisme en particulier. Et quand il est décédé, j'ai le souvenir très fort qu'il nous a dit, quelques jours avant, sa génération était en train de partir et qu'il allait falloir trouver le moyen de maintenir et de conserver et d'entretenir cette mémoire critique au-delà de la présence des témoins. Et il y a 15 ans qui ont passé depuis, il y a beaucoup d'autres qui ont disparu et ce problème nous est posé de manière frontale aujourd'hui, bien évidemment. juste puisqu'on
parle d'antisémitisme, j'ai retrouvé une citation de, parce qu'on a parlé tout à l'heure, Charles a parlé du procès qui a été fait à Jules Dicker. Je perds mon identité. Bon, tant pis. Je la retrouverai, je la dirai devant le 9 novembre. Voilà, on est là. Alors là aussi, c'est en détour dans l'histoire, aussi un petit peu personnel. On est là devant la tombe la plus discrète du cimetière, à part celle de Calvin, dont on ne sait pas vraiment où elle est, qui est celle d'un monsieur qui s'appelle Ludwig Hohl, qui est décédé en 1981, et que j'ai connu, pas tout à fait personnellement, pas comme Charles avec Rigner. C'était un monsieur qui habitait en face de la cour de l'église Sainte-Clotilde où on allait jouer au foot, et il habitait en sous-sol où il y avait des cordes à linge et où il mettait avec des pinces à linge des manuscrits. Et nous, on l'appelait Camus parce que c'était sûrement le seul écrivain qu'on connaissait à l'époque, quand on avait, je devrais avoir 10 ans, même pas. Et ce type, il nous terrorisait parce qu'il se promenait dans la rue, il avait des longs cheveux blancs, ce qui à l'époque n'était pas très courant. Il avait souvent un chat sur l'épaule et il était le plus souvent à moitié ivre. Et ben voilà. Donc il nous faisait très très peur quand on était tout petit. Et puis on a su, plusieurs copains et moi, assez longtemps, même très longtemps après, par un autre écrivain genevois, qu'en fait ce type c'était pas un écrivain, il n'y avait pas seulement ses œuvres qui étaient pendues à des fils à linge, mais c'était un écrivain auquel Max Frisch et Friedrich Dürrenmatt disent qu'ils doivent tout. Donc je vous laisse imaginer. Il a vécu longtemps à l'étranger et il a vécu, alors c'est là qu'on retrouve sur le mouvement ouvrier, même s'il n'a pas fait partie du mouvement ouvrier. Depuis 1937, il a vécu à la Jonction, donc dans un quartier ouvrier. Il est resté là jusqu'à sa mort, en écumant les bistrots du quartier. Je ne sais pas quel lien il avait avec les gens. Donc c'est quelqu'un qui a écrit des livres, j'en ai un là, qui vient d'être réédité. C'est extrêmement difficile à lire. C'est un très très grand philosophe et ils disent dans un voilà j'ai de nouveau emmêlé mes dans le dictionnaire historique de la Suisse où il parle d'ailleurs de son alcoolisme, son écriture témoigne d'une incessante recherche sur la langue et sa conception de la littérature qui refuse toute séparation de poésie et philosophie était et reste en porte-à-faux avec les pratiques habituelles de ses confrères. Donc c'était un très grand écrivain qui était très méconnu. Je crois qu'à l'époque, ses œuvres n'étaient pas traduites en français. Si vous trouvez ça, on le trouve maintenant, on n'en trouve plus tellement d'autres. Mais ceux qui lisent couramment Schopenhauer peuvent lire Ludwig Hohl, mais ceux qui ne lisent comme moi que de la bande dessinée, c'est plus difficile. Voilà un petit détour qu'on a fait. Et maintenant, on va revenir.
Voilà. Alors, là, je suis en train de constater que la pluie a tous les défauts dans une visite en plein air. Là, par contre, une qualité, c'est que hier, on arrivait à lire l'inscription. Hier, on...
Si vous le posez sur votre montre,
il est dans le mauvais sens.
Qu'est-ce qui est dans le mauvais sens ?
Toi. Hier, on n'arrivait pas à lire Ludwig Hohl. Ouais. Pas du tout, maintenant on arrive bien.
Alors là, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à lire ce qui est ici. Alors, bon, on a commencé par Georges Favon. Et donc, ce qui a permis de rappeler ou de marquer le fait qu'à l'origine du mouvement ouvrier, il y avait un parti bourgeois démocratique progressiste qui s'appelait le Parti radical, dont était issu le mouvement socialiste. Avec une personnalité comme Georges Favon, qui était... Je ne suis pas sûr que c'était un gauchiste, comme a dit mon camarade, mais c'était quelqu'un de très progressiste, et les citations qu'il a données le démontraient. Et en effet, la démocratie genevoise est née d'un processus qui a été, et c'est la même chose à l'échelle nationale, est née effectivement d'un processus qui a été impulsé par le mouvement radical, On a évoqué tout à l'heure, par exemple, la première internationale à Genève. Il était courant, à l'époque, que des membres, des ouvriers membres de la première internationale soient membres du Parti radical. Donc, vous voyez que l'histoire, fondamentalement, c'est la recherche des différences. Parce que, des différences à travers le temps, parce que là, en termes de différences, on est servi. Alors, le monument que vous avez ici, ce qui est écrit, c'est un monument qui fait, c'est la tombe de trois victimes ou de trois révolutionnaires qui sont tombés le 7 octobre 1946. Il est écrit qu'ils sont morts pour l'Union fédérale, pour l'indépendance et la liberté de Genève. Et il y a alors trois noms Voilà. Et donc, il s'agit de 7 octobre 1946, les 7 et 8 octobre 1946, c'est la révolution radicale de Genève qui est provoquée par le refus des autorités en place de voter à la diète pour la dissolution du Sonderbund, qui était une ligue de séparation de cantons très conservateurs qui voulaient défendre la présence d'écoles jésuites sur leur territoire. Et en fait, cette révolution a provoqué non seulement une révolution à Genève, et une constituante qui a abouti en 1847 à la constitution genevoise, qui était encore en vigueur jusqu'à il y a quelques années quand il y a eu la constituante et la nouvelle constitution. Donc c'est bien l'origine de la démocratie genevoise. Mais en plus, ça a fait capoter la majorité à la diète. Et du coup, cet événement-là a aussi provoqué le fait qu'en 1848, il y a eu une transformation profonde des institutions de la Suisse, l'émergence d'une constitution inspirée de la constitution américaine, à la suite d'une courte guerre qui est la guerre qu'on appelle la guerre du Sonderbund, et dont le général, vous le trouvez à la place de Neuve, était Henri Dufour. Alors, donc un événement extrêmement important, mais un événement que les radicaux d'aujourd'hui n'ont pas trop envie de célébrer. Alors, pour la petite histoire, en 1996, c'est le GSSA, le groupe pour une Suisse sans armée, qui a menacé de célébrer la révolution radicale parce que les radicaux ne voulaient pas la faire, n'annonçaient rien. Alors c'était un peu un gag. Du coup, ils se sont dépêchés de déposer une plaque très discrète que vous trouvez sur la place du Mollard. Mais surtout, cet événement fondamental, il est complètement occulté. Quelle est la fête nationale du canton de Genève? C'est pas l'escalade, celle qui vous donne droit à un jour férié. La fête nationale du canton de Genève, c'est la fête de la Restauration. 31 décembre 1813, vous croyez tous que vous avez congé parce que c'est le 31 décembre, et patati et patata, mais c'est pas du tout pour ça. Il y a des canons, enfin il y a toutes les sociétés militaires qui tirent des coups de canon sur la treille le matin du 31 décembre. C'est une commémoration qui, pour l'historien du mouvement social que je suis, est absolument scandaleuse. Elle est invraisemblable, elle est incompréhensible. Enfin oui, elle est compréhensible, mais elle est problématique. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre le retour de Genève à l'indépendance, très bien, mais à quel prix? C'est les Autrichiens qui sont arrivés, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Autrichiens? Ils ont redonné les clés de la cité aux quelques familles patriciennes qui avaient gouverné Genève pendant le XVIIIe siècle, et donc on a restauré l'ancien régime. Et donc on a une fête nationale, enfin cantonale, officielle, avec jours fériés et tous les flonflons possibles et imaginables, qui célèbre une restauration qui ne dit rien de la démocratie, comme si on n'avait pas de problème avec la démocratie. Or, la création de la démocratie, c'est 17 morts, là vous en avez 3, mais il y en a eu 17, qui étaient à Saint-Gervais. Alors les insurrections à Genève, c'est toujours la même chose. Les troupes gouvernementales descendent de la vieille ville et puis ça tire depuis Saint-Gervais, des coups de feu s'échangent à travers la Rade, enfin à travers le Rhône plutôt, et puis c'est souvent assez sanglant. Ce qui est aussi très, très, très important, c'est que quand je dis 17 morts, je me réfère à un ouvrage de référence, mais il n'y a pas les noms. À l'époque, en fait, ces morts-là étaient quasiment normaux et on faisait pas trop d'histoire avec ça, quoi. Par contre, tous les, tous les manuels d'histoire, tous les ouvrages de l'époque, mais encore d'aujourd'hui, disent, voilà, il y a eu des échauffourées, et du coup, le gouvernement a dû céder, et c'est donc l'arrivée au pouvoir de James Fazi, c'est le régime de James Fazi qui émerge. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que, bon, il y a quand même, je l'ai retrouvé par hasard, parce que c'est écrit quasiment nulle part que ce monument existe, hein, mais bon, il y a quand même ce monument, on arrive à voir 1846, on arrive quand même à lire, mais vous voyez bien qu'il n'est pas entretenu. Et donc, il n'a pas une importance particulière. Et ça, ça nous dit évidemment beaucoup de choses, non seulement... Ça nous dit des choses sur le passé, parce qu'il y a trois victimes qui sont là. On leur attribue des valeurs que sont l'Union fédérale, la liberté et l'indépendance. Mais ça dit surtout beaucoup de choses sur notre présent et sur notre rapport au passé et sur la manière dont nous faisons mine collectivement de ne pas être très inquiets de la question des droits humains, parce que les droits humains, c'est plutôt en 1946 que ça se joue qu'en 1813.
Ça fait
assez
communiste, l'étoile rouge. L'étoile, on peut l'imaginer rouge, mais...
Non, mais elle
n'est
pas communiste.
Oui, mais
oui,
justement,
les 1846.
Oui.
Juste à propos de l'entretien, vous parliez de l'entretien du monument, mais est-ce que les autres sont entretenus par des particuliers? Comment ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Est-ce que certains sont mieux entretenus que d'autres par...
Je ne peux pas vous répondre d'une manière générale. Je connais des cas particuliers. Quand j'étais président de l'Association pour l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier, j'avais lancé une demande auprès des autorités pour qu'on entretienne une tombe qu'on ne peut malheureusement pas voir, mais qui est celle de l'un des fondateurs de la Première Internationale qui se trouve à Saint-Georges, parce que c'est un magnifique monument avec des inscriptions en plusieurs langues, sauf qu'il est en bagarre avec une racine depuis une trentaine d'années, et puis il est en train de ressembler à la tour de Pise, et ça craint un peu, il faudrait le restaurer ou le déplacer. Donc peut-être qu'on va y arriver parce qu'on aura agi. Et en principe, quand il y a... Et par exemple, la tombe de Bertoni, il y a des anarchistes qui l'entretiennent régulièrement. Voilà. Alors ça c'est les cas que je connais. Il faudrait faire des études, mais c'est très difficile à en trouver les traces. Mais je veux dire, chaque monument, de ce point de vue-là, a sa propre histoire. Et derrière chaque monument, il y a ou pas une action, une initiative qui peut être privée, associative ou publique, pour faire vivre le monument. Et si il n'y a pas ça, le monument disparaît. Il y a aussi une chose que je n'ai pas dite. Parce que c'est aussi compliqué d'avoir toutes les données, mais quand on regarde un monument, par exemple, je ne sais pas s'il a été instauré tout de suite ou pas. Je sais que pour les conseillers d'État socialistes qui sont ici, ils ont été enterrés tout de suite ici, donc je sais que le temps du décès est le même que le temps de l'instauration de la tombe. Ici, je ne sais pas. Et c'est aussi une information qui peut être intéressante parce que, par exemple, le monument pour Léon Nicole, il est ultérieur, il n'est pas au moment de sa mort, il est à la fin des années 60, il faillit plus tard. Voilà, mais votre question est terrible parce que, en fait, j'ai très peu de réponses à ces questions, et il y aurait beaucoup de choses à étudier, il y aurait un gros travail à faire, qui ne va pas de soi en termes de traces quand on parle du mouvement ouvrier, qui serait sans doute beaucoup plus facile pour tous les grands personnages de l'histoire. Patricienne et bourgeoise de Genève, dont vous avez pu voir les tombes somptueuses en traversant une petite partie de ce cimetière. Voilà, alors malheureusement la grille qui est là est fermée, on n'a pas réussi à la faire ouvrir, donc on va devoir faire le tour pour aller au boulevard Saint-Georges, vers l'endroit le plus étrange de cette promenade. Enfin, celui qui demande le plus d'explications, en tout cas, quand on y est.